Oui, rebonjour. Donc, énormément de sujets qui sont abordés par rapport à votre présentation. Peut-être commencer par deux grandes familles de questions. Je pose les deux et puis je vous laisse voir comment est-ce que vous répondez. La première, c'est une réaction quant au fait que vous avez montré des solutions. Il y a d'autres types d'aménagements qui n'ont pas forcément été illustrés. Par exemple, certaines personnes parlent de voie bus. Certaines personnes parlent, enfin, de bus partagés avec les cyclistes. Certaines personnes parlent également de chaussée à voie centrale banalisée, donc un aménagement peut-être un peu moins connu de tous, mais qui permet des choses. Voilà, donc la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est des choses qui n'ont pas été illustrées, qu'est-ce qui est envisageable? Donc ça, c'est la première catégorie de questions, on va dire. Et puis, bon, il y en aura d'autres, mais je vous laisserai répondre aux deux premières. La seconde, c'est plutôt par rapport à la largeur des aménagements cyclables qui sont proposés. Tout le monde ne sait pas quelles sont les recommandations déjà habituelles pour les aménagements cyclables et qu'est-ce qui justifie les dimensions qui sont proposées dans les profils en travers qui sont montrés. Voilà, quelques éléments sur lesquels je pense que vous pouvez réagir et ça devrait satisfaire un grand nombre de spectateurs.
Sur la question d'autres dispositifs qui pourraient être mis en œuvre, comme eh bien, la mise en place de voies bus ou la mise en place de chaussées à voie centrale banalisée, évidemment, il n'y a aucune opposition à ça, hein. Encore une fois, les limites de la voie bus, c'est quand il y a énormément de bus dedans et qu'en plus, il y a beaucoup de taxis. C'est vrai qu'après… On est dans une situation aussi d'incertitude, hein, de rupture où ces aménagements existants, donc en particulier les voies bus, on ne sait pas comment elles vont être reconfigurées parce que évidemment il va y avoir une utilisation différente, hein, des transports en commun. Mais je dirais qu'il n'y a aucune raison de ne pas non plus envisager quand ça apparaît pertinent et qu'il y avait une demande préexistante. D'éventuellement mettre en place ce type d'aménagement. Sur la question des largeurs, eh bien, c'est vrai que, par exemple, là, donc j'ai repris, je peux reprendre le schéma de base, hein. On est bien dans des choses qui relèvent de l'exemple. Il peut y avoir quand on est dans ce cas-là, avec une donnée de base qui est ici, là, avec une voie urbaine directionnelle à deux fois deux voies, il nous apparaît assez simple de se dire que eh bien, les usagers cyclistes, pour circuler avec une interdistance personnelle suffisante, eh bien, il faut qu'il y ait ces 2,50 m d'emprise au sol, hein. C'est d'ailleurs ce qui est repris dans l'interdistance piéton dans la présentation de Marion. Et donc, ça nous semble pertinent d'avoir ce type d'emprise. C'est d'ailleurs qu'on a comme retour d'expérience de ce qui a pu être fait en Europe. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que c'est une norme et qu'il va pas falloir l'adapter en fonction de situations particulières. Je prends par exemple le cas des élargissements de bandes cyclables existantes. Si ici vous avez déjà donc 2,50 m ici, 2,50 m ici, 2,50 m ici, 2,50 m ici, vous êtes déjà sur des voies qui sont à 5 mètres, qui sont déjà assez étroites pour des doubles voies dans le même sens, hein. Ça peut poser des soucis quand le trafic est fort et supporte notamment un trafic poids lourd ou TC. Eh bien, peut-être qu'il faudra réfléchir à une autre solution et qui va être justement pour le coup, supprimer des voies. Donc, tout ça, on est dans l'exemple, dans les exemples pour discuter, mais aucun caractère normatif. Autant que faire se peut, quand on est dans de l'unidirectionnel, il nous apparaît, et de toute façon, c'est la recommandation classique, hein, quand on est de l'unidirectionnel, eh bien, la recommandation, c'est 2,50 m. Et là, avec la situation de rupture dans laquelle on est, eh bien, on a une occasion, justement, de pouvoir satisfaire à ces recommandations qu'il est parfois difficile de mettre en œuvre par les maîtres d'ouvrage.
Merci Thomas. Je me permets de poursuivre peut-être avec deux questions et puis je te laisserai me dire comment tu te positionnes par rapport au programme parce que peut-être que certaines questions techniques pourront être abordées par la suite avec les collectivités. Il y a la question notamment, on en a parlé en introduction, d'itinéraires potentiellement interurbain avec des vitesses des véhicules motorisés qui finalement vont pas être abaissés en deçà de 70 km/h en règle générale. Et quelle solution vous mettez en avant au niveau des séparateurs de voies dans ce type de configuration? Il y a certaines illustrations que tu as montrées, mais peut-être qu'elles méritent d'être réexplicitées.
Oui, alors quand on va être en interurbain, encore une fois, on a une grande pluralité de configurations, hein, avec les deux, je dirais, les deux variables de base que sont le trafic, donc son volume, son débit, et puis la vitesse. Et en fonction de ces deux paramètres, eh bien, on va être amené à choisir évidemment des séparateurs. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le besoin, il existe maintenant. C'est-à-dire que c'est pas que en déconfinement, il y a aussi un besoin par rapport aux axes qui ont été fermés à la circulation des cyclistes utilitaires qui doivent continuer à se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail pour les métiers qui sont maintenus et qui sont pas possibles de faire en télétravail. Et bien sur ces axes qui sont interdits, il y a une occasion une nécessité de maintenir cette possibilité de circuler en sécurité. Je dirais que les solutions sont à voir. La règle de base, c'est quand même que quand on est à 80 km/h, eh bien si on peut, eh bien on sépare évidemment physiquement les cyclistes des usagers motorisés. La question du débit aussi va avoir son importance. Et puis il y a aussi parfois des solutions de compromis à utiliser. Il y a des départements qui utilisent notamment les accotements aux revêtures en les élargissant, en leur donnant une texture différente avec un matériau, une couleur différente de la chaussée générale. Encore une fois, on est dans la boîte à outils générale existante qui a toute sa place et qui peut tout à fait être mise en œuvre dans le cadre des aménagements cyclables temporaires.
Est-ce qu'on prend le temps d'une ou deux questions encore?
Il est 45. Moi, je propose qu'on fasse la pause. On a déjà un petit quart d'heure. Je vous propose de souffler quand même parce que les webinaires, les webconf, ça demande beaucoup de concentration. On a pris un quart d'heure de retard sur l'ordre du jour. Je vous propose de prendre un quart d'heure et de se retrouver à 16 heures avec des présentations très attendues des collectivités et des associations qui travaillent en carré, en temps réel sur les sujets que nous avons abordés.